Merci d'écouter RFI, midi et demi en temps universel. Il est 14h30 ici à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner, bonjour à toutes et à tous. La CEDEAO a 50 ans, une cérémonie est organisée aujourd'hui à Abuja. Organisation pionnière dans l'intégration régionale, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest garantit la libre circulation des biens et des personnes. Mais elle est aussi en crise, cible de critiques et abandonnée cette année par le Mali, le Niger et le Burkina. Rendez-vous annuel instauré il y a bientôt 10 ans au Sénégal. La journée du dialogue national s'est ouverte ce matin. Plusieurs figures de l'opposition ont lancé dès l'ouverture des débats un appel à une pacification de l'espace politique. 120 ans après, la Namibie commémore aujourd'hui pour la première fois le génocide des Herero et des Nama. Des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants impitoyablement massacrés par l'armée allemande. L'historienne Delphine Froment, spécialiste de la colonisation allemande en Afrique de l'Est, est notre invitée. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest célèbre ce mercredi ses 50 ans. Les cérémonies se déroulent à Lagos, la capitale nigériane où la CEDEAO a été créée le 28 mai 1975. Serge Daniel, vous êtes notre envoyé spécial à Lagos, un jubilé célébré dans une certaine sobriété.
Oui, une certaine sobriété, en tout cas pour le début ici à Lagos, dans la capitale économique du Nigeria, pour célébrer les 50 ans donc de l'organisation régionale. Alors, tout a commencé par l'hymne national de la CEDEAO. Les chefs d'État se sont quasiment isolés dans une salle de l'Institut nigérian des affaires internationales. Et parmi la poignée de chefs d'État à présent, on a reconnu le Togolais Faure Yassingbé ou encore le Bissau-Guinéen Ambalo. Et parmi les grands absents, il y a l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara ou encore le Béninois Patrice Talon. Alors, geste symbolique, les chefs d'État membres de la CEDEAO ou les représentants présents ici ont signé des documents officiels pour réaffirmer leur volonté d'aller vers l'intégration régionale, de réaliser l'intégration économique pour plus de 300 millions d'habitants dans l'espace. Sur la photo souvenir, un homme drapé dans un boubou blanc, on l'a reconnu, c'est Yakubu Gowon, c'est l'ancien président nigérian. Il est le seul chef d'État encore vivant depuis fondateur de la CEDEAO le 28 mai 1975. Alors, l'organisation a 50 ans, vous l'avez dit, ici, on ne cache pas qu'il reste beaucoup à faire. Si la libre circulation des biens et des personnes est une réalité, des problèmes restent sans solution pour le moment. Et puis, il y a l'absence de trois pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, qui ont claqué la porte, vous savez, pour créer l'AES, qui est un sujet de discussion. Certains rêvent d'une cohabitation sans tension entre les deux entités. Alors, les cérémonies de célébration vont se poursuivre tout à l'heure. Vous entendez un peu de musique, un peu comme pour dire les cérémonies pourraient se terminer plutôt dans plus de gaieté.
Serge Daniel, envoyé spécial de RFI à Lagos, modèle d'intégration régionale. La CEDEAO, on l'entend, s'attire aussi les foudres de ses détracteurs. Une véritable crise de légitimité qui doit être traitée pour l'économiste bissau-guinéen Carlos Lopez, professeur à la Nelson Mandela School of Public Governance de l'Université du Cap.
L'organisation avait brillamment entamé son parcours, s'imposant pendant un temps comme le modèle le plus avancé d'intégration régionale en Afrique. La CEDEAO a été pionnière en matière de libre circulation des personnes, de levée des barrières frontalières et surtout d'intervention collective dans des contextes de crise sécuritaire comme au Libéria et en Sierra Leone. Pourtant, au fil du temps, la CEDEAO a perdu en cohérence sur les grands dossiers politiques et désormais aussi économiques. Le projet de monnaie unique, par exemple, l'ECO, en est venu à symboliser la lente désintégration du consensus. C'est une perte de cap et cette perte de cap a conduit à une érosion progressive de la légitimité de la CEDEAO, amorcée dès le retrait de la Mauritanie, aujourd'hui aggravée par la défection ouverte des trois États, le Burkina, le Niger et le Mali. C'est le moment vraiment que la CEDEAO puisse se renouveler, ou bien elle cessera, pas nécessairement d'exister, mais de compter.
L'économiste Carlos Lopez au micro de Claire Fage. C'est un rendez-vous annuel de la vie politique sénégalaise depuis 2016. La journée du dialogue national s'est ouverte ce matin. Elle est axée cette année sur la modernisation du système politique. Jusqu'au 4 juin, les partis et tous les acteurs de la société civile intéressés vont plancher sur l'amélioration du système électoral et de la vie publique en général. Léa Lisa Westerhoff, vous êtes sur place au centre de conférence de Diamniadio en banlieue de Dakar. Le dialogue s'est ouvert ce matin sur un appel de plusieurs figures de l'opposition à une pacification de l'espace politique.
Oui, le climat est tendu, a pointé Amadou Ba, ancien Premier ministre, arrivé deuxième à la présidentielle, invité à s'exprimer à l'ouverture des travaux en tant que chef de l'opposition. Amadou Ba a pointé des arrestations, je cite, des restrictions à la liberté qui interpellent, faisant référence à l'arrestation de plusieurs opposants, mais aussi de journalistes. Une invitation à faire baisser les tensions politiques, relayée par la dizaine de figures de l'opposition qui s'est exprimée à l'ouverture des travaux. L'opposant Khalifa Sall a plaidé, je cite, pour une conduite plus apaisée et civilisée de la reddition des comptes, en référence aux 6 anciens ministres actuellement inculpés par la Haute Cour de justice pour détournement de fonds présumés. Autre attente formulée par l'opposition, celle d'ouvrir ce dialogue aux questions sociales et économique, préoccupation majeure de la population, selon l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. Le chef de l'opposition, Amadou Ba, a donc demandé que cette question soit inscrite à l'ordre du jour, en plus des réformes du système électoral et des questions de liberté publique. Le Sénégal fait face à des pertes d'emplois, à une dette croissante et préoccupante, a affirmé Amadou Ba. Si on n'est pas forcément d'accord sur les causes, il faut qu'on s'entende sur les solutions, a-t-il ajouté. C'est donc un programme ambitieux qui attend les quelques 500 participants, partis politiques et membres de la société civile réunis ici au centre de conférence de Diamniadio jusqu'au 4 juin, Nicolas.
Léa Lisa Westerhoff, correspondante de RFI à Dakar. Dans le centre du Mali, le cri d'alarme des habitants du village de Souley, dans la région de Ségou. Dans une vidéo enregistrée dimanche dernier et diffusée sur les réseaux sociaux, ils racontent leur calvaire et appellent les autorités de transition à l'aide. David Baché, comme d'autres localités, Souley subit depuis 2 ans un blocus imposé par les djihadistes du Jnim liés à Al-Qaïda.
Le chef du village, une représentante des femmes, un représentant des jeunes, d'autres encore prennent courageusement la parole à visage découvert. Souley est à la fois un village et le chef-lieu d'une commune qui regroupe 9 autres villages. 7 ont conclu des accords locaux avec le Jnim, se résignant à accepter les règles des djihadistes, religieuses, vestimentaires, paiement de l'impôt. En échange, ils peuvent circuler et travailler. Les 3 autres villages, dont Souley, qui refusent de se soumettre, en payent le prix. Souleymane Tangara est un conseiller municipal, après lui la représentante des femmes dont le nom n'est pas mentionné.
La fierté. Nous ne sommes pas tranquilles, c'est la 3e année de suite que nous ne pouvons pas cultiver. À ce jour, on n'a même pas commencé à labourer, or l'hivernage approche. Comment va-t-on faire? Si ça continue, c'est la faim qui va faire tomber le pays. Il y a aussi l'éducation, nous n'avons plus d'école depuis 2 ans. Nous n'avons plus de centre de santé, plus de médicaments. Notre bétail, qui était notre espoir, nous n'en avons plus. Les hommes armés nous ont volé tous nos animaux.
Assimi Goïta, il faut nous aider. Quand nos hommes vont au champ ou chercher à manger, ils se font tuer. Il faut plus de soldats.
Il y a 3 mois, ce sont les habitants de Diosso, dans la même région de Ségou, qui avaient enregistré une vidéo similaire, en dépit des risques de représailles djihadistes.
L'actualité en République démocratique du Congo depuis 3 jours. Joseph Kabila séjourne à Goma, selon ses proches et selon l'AFC M23, le mouvement qui contrôle la ville. L'ancien président a déjà tenu des réunions avec ses équipes et prévoit de commencer ce qu'il appelle des consultations. Est-il à Goma pour prendre la tête de l'AFC M23, comme l'en accuse Kinshasa? Patient Ligodi a posé la question à l'ancien ministre Kikaya Binkaroubi, proche collaborateur de Joseph Kabila.
Absolument pas. Le président Kabila, il l'a dit dans son discours, il est prêt à travailler avec quiconque aime passionnément le Congo. Alors, si l'AFC M23 prouve qu'ils aiment passionnément le Congo comme le président Kabila le souhaite, pourquoi pas? L'AFC M23 veut mettre fin à la dictature. Et c'est un des objectifs, une des premières conditions pour que la situation redevienne normale en République démocratique du Congo.
Vous avez combattu le M23 quand vous étiez au pouvoir. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous allez vous allier avec ce même mouvement?
Nous avions combattu le M23 en son temps et les raisons qui ont poussé le M23 à prendre les armes en 2012 ne sont pas les mêmes que celles qui les poussent à prendre les armes aujourd'hui. Aujourd'hui, le M23 étaient alliés au gouvernement de M. Tshisekedi, vous le savez. Ils ont séjourné pendant longtemps à Kinshasa. Ils ne se sont pas entendus sur un certain nombre de choses, tout comme nous. Nous ne sommes pas d'accord avec un certain nombre de choses. Et ces objectifs convergent aujourd'hui. Et encore une fois, tout ce qui peut concourir à mettre fin à la tyrannie et à la dictature, nous sommes prêts à travailler avec eux.
Kikaya Binkaroubi, ancien ministre et ancien ambassadeur au micro de Patient Ligodi. À Kinshasa, pour le gouvernement, pas de doute, Joseph Kabila n'a pas de bonnes intentions en venant à Goma. Il veut faire la guerre, a dit hier Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement.
Nous sommes dans un contexte démocratique où lui et son parti avaient fait le choix de ne pas participer aux élections. Lorsque vous venez dire que vous allez mettre fin à la tyrannie, vous y mettrez fin de quelle manière? Il faut dire aux compatriotes qui sont à Goma aujourd'hui, ou qui sont dans les autres parties sous occupation, les messages qui leur est destiné, c'était « Apprêtez-vous, on va faire la guerre ». Il faut pas se cacher. Et donc, lorsque j'ai dit que c'est l'homme du passé, c'est justement ces passés-là dont les Congolais n'ont plus besoin. Les passés de la guerre, les passés de la compromission de nos minerais, notamment avec le Rwanda, les passés de la corruption, les passés de la concussion. Nous avons déjà largement dit non à cela et aujourd'hui je pense que nous tous nous devons nous focaliser derrière le président de la République sur comment nous terminons la guerre avec les Rwandais et tous ces supplétifs sont traités à un niveau plus bas.
Patrick Mouyaya hier face à la presse à Kinshasa.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, l'homme qui a poignardé à mort le petit Matisse au Cameroun, inculpé pour assassinat et emprisonné. Et puis nous écouterons Balabits, le nouvel album du groupe franco-burkinabé Kanazoé Orchestra. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce mercredi en Guinée, l'opposant Aliou Ba condamné en appel, 2 ans de prison comme en première instance. Son avocat n'indique pas encore s'il va aller devant la Cour suprême. Depuis 3 semaines, l'affaire suscite une vive émotion au Cameroun. Depuis que le petit Matisse, 6 ans, a péri poignardé alors qu'il se trouvait chez lui à Yaoundé après une altercation entre son père et un autre homme. Cet homme est lui-même le père d'une slameuse connue au Cameroun. Elle s'appelle Lidole. Amélie Tulé, hier, il a été inculpé pour assassinat et a passé sa première nuit en prison.
Oui, à la prison centrale de Konangi. Détention provisoire donc pour Dagobert Nwafo en attendant son procès. Détention provisoire de 6 mois jusqu'au 27 novembre. Selon le mandat signé par le juge d'instruction, Dagobert Nwafo, 47 ans, est inculpé pour assassinat, ce qui induit la circonstance aggravante de la préméditation, puisqu'après s'être disputé avec le père de Matisse dans un bar, le prévenu serait allé chez lui prendre une arme blanche, un couteau, pour ensuite se rendre chez son rival, son adversaire, et c'est là qu'il aurait asséné les coups mortels à l'enfant. Un drame qui a ému au Cameroun, parce qu'un enfant est mort, mais aussi parce que cela pose la question de la violence et des lenteurs reprochées à la justice camerounaise. Certains internautes se sont inquiétés en ligne de voir le dossier, comme d'autres, s'enliser. Des mamans ont manifesté devant le commissariat où était gardé à vue Dagobert Nwafo. Sa fille, l'artiste Lidole, très émue, elle s'était rapidement exprimée sur son compte Instagram pour présenter ses condoléances à la famille de Matisse, condamnant toute forme de violence, quelles que soient les circonstances, et annulant par respect 2 concerts prévus fin mai et début juin à Yaoundé et Paris.
Les sports du football, petit coup de tonnerre au Sénégal avec une absence très remarquée dans la liste des convoqués pour le rassemblement international qui démarre la semaine prochaine. 2 matchs amicaux sont programmés contre l'Irlande et l'Angleterre. Sadio Mané n'y figure pas. La star des Lions de la Teranga qui évolue en Arabie Saoudite dans le club d'Al Nassr n'est pourtant pas blessé. Il aurait lui-même signifié son refus de se rendre en sélection. Son absence et surtout les raisons de celle-ci intriguent beaucoup au pays. Babacar Fall.
Mais pourquoi Sadio Mané n'a pas voulu être sélectionné par Pape Tchao? Le sélectionneur lui-même ne le sait pas.
C'est une décision personnelle qui lui appartient. Donc voilà, moi, en tant que sélectionneur, je respecte cette décision. Maintenant, pour moi, c'est le collectif. Donc, j'ai composé une équipe, des joueurs disponibles pour venir se battre pour le maillot avec fierté.
Depuis 13 ans qu'il est en équipe nationale, c'est la première fois que le meilleur buteur de l'histoire des Lions ne répond pas à une convocation du sélectionneur. Le journaliste Abdoulaye Kam, président de l'Association nationale de la presse sportive.
L'absence de Sadio Mané a créé une sorte d'ordre de choc au niveau de la conférence de presse de Pape Thiaw, parce que beaucoup de journalistes ne s'y attendaient pas. Je pense que dans la communication de Pape Thiaw aussi, il s'est contenté juste de dire que c'est pour des raisons personnelles. Donc, il aurait dit peut-être dire des raisons familiales ou autre chose, mais c'est des raisons personnelles.
Sadio Mané ne pourra donc pas jouer les deux matchs amicaux des Lions au mois de juin, l'Irlande le 6 et l'Angleterre 4 jours plus tard. Les supporters anglais ne pourront pas revoir l'ancien numéro 10 de Liverpool. Babacar Fall, Dakar, RFI.
Le Kanazoé Orchestra sort un quatrième album à son image. Balabits, 10 titres où ce groupe franco-burkinabé fusionne avec brio, balafon et afrobeats, traditions ancestrales et rythmes actuels, tout en véhiculant des messages sur l'unité, l'exil et l'espoir. Carmen Linsman.
À l'origine du Kanazoé Orchestra, c'est lui, Seydou Diabaté. Venant du Burkina Faso, où il a été initié au balafon dès l'âge de 5 ans, il est reconnu aujourd'hui par ses pairs comme le plus grand virtuose de ce xylophone d'Afrique de l'Ouest.
Le balafon, pour moi, c'est tout. En fait, je suis famille griot. Mon grand-père, tout le monde, il jouait le balafon. J'ai joué pour les fêtes, les mariages, les morts. Le balafon, c'est vraiment... Moi, je suis né dedans.
Aujourd'hui, son balafon se décline dans toutes sortes d'afrobeats. Il dialogue avec un saxophone, une basse, une batterie et crée des passerelles entre l'art ancestral des trois Burkinabés et les arrangements actuels des trois Français du Kanazoé Orchestra, dont Laurent Planel.
Moi, j'habitais au Mali, Martin en Côte d'Ivoire, et la philosophie que défend le groupe, c'est déjà le vivre ensemble, faire un pas vers l'autre. Et après, c'est beaucoup eux qui écrivent les paroles autour de leur vision de l'Afrique en tant qu'Africains qui vivent en France. L'exil, la famille qui reste au pays.
Entre engagement et célébration, leur album Balabits touche des thèmes aussi variés que la paix, l'esclavage, la jeunesse et l'espoir, avec une musique qui exprime avant tout la foi en un monde meilleur.
Il est 14h48 à Paris. Anne Kantner, les grands titres de ce mercredi 28 mai.
La Russie cherche constamment des raisons de ne pas arrêter la guerre, déclaration de Volodymyr Zelensky en visite à Berlin. Il a proposé tout à l'heure une rencontre à trois avec Vladimir Poutine et Donald Trump. Moscou décline et exige au préalable des avancées dans les discussions entre les deux pays. Les Nations Unies condamnent le système d'aide humanitaire mis en place par Israël dans la bande de Gaza, une distraction selon le chef du Haut Commissariat aux droits de l'homme dans les territoires palestiniens. Hier, une distribution de nourriture a tourné au chaos et 47 personnes ont été blessées. Et puis 20 ans de prison pour Joël Le Squarnec. La peine vient d'être communiquée par la justice française et elle est assortie d'une peine de sûreté des deux tiers. Pas de sortie possible avant ce délai pour l'ancien chirurgien reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur 300 de ses patients, en grande majorité des enfants et souvent lorsqu'ils étaient sous anesthésie. La Namibie commémore aujourd'hui pour la première fois le génocide perpétré par l'armée coloniale allemande entre 1904 et 1907. On parle de l'élimination systématique des populations Herero et Nama. Longtemps oubliée, cette période de l'histoire africaine est aujourd'hui considérée comme le premier génocide du XXe siècle. L'historienne Delphine Froment, spécialiste de la colonisation allemande en Afrique de l'Est, est votre invitée, Nicolas.
Bonjour Delphine Froment.
Bonjour.
Pourquoi l'Allemagne, qui à l'époque contrôle ce qu'on appelle le sud-ouest africain, décide-t-elle d'éliminer les populations Herero et Nama dès 1904?
Mais en fait, on est dans un contexte de guerre coloniale. L'Allemagne a ce territoire depuis 1884. Elle a un objectif d'en faire une colonie de peuplement, ce qui passe par une politique de confiscation des terres des populations locales. Et parmi les populations locales, on a les Herero et les Nama, qui sont des sociétés d'éleveurs qui ont donc besoin de terres de pâturage. Et du coup, cette politique, elle va vite devenir insoutenable pour les Herero. Et certains vont, en janvier 1904, s'en prendre aux autorités coloniales en s'attaquant principalement aux infrastructures. Donc, pas si grave que ça à la base. base. Et en fait, le colonisateur allemand va répondre par une répression mais brutale et décuplée qui transforme ce petit soulèvement local en un conflit majeur. Et je voudrais juste ajouter qu'au début, les Nama, ils vont combattre aux côtés des Allemands. Et en fait, en voyant qu'ils n'ont finalement rien à gagner à cette alliance, plutôt tout à y perdre, ils vont aussi entrer dans la guérilla et devenir aussi des cibles des troupes des Allemands.
Alors on a parlé des méthodes atroces employées par l'armée allemande pour éliminer femmes, hommes et enfants, et notamment de camps de concentration. Que sait-on de ce qui s'est passé dans ces camps de concentration? Est-ce qu'ils préfigurent ce qu'on connaîtra 40 ans plus tard avec la Shoah?
Alors, les camps de concentration, c'est pas tout de suite. D'abord, il y a une guerre, des techniques de guérilla où les populations civiles sont déjà vraiment ciblées de manière différente. Et il y a une logique génocidaire qui est vraiment confirmée avec un ordre de destruction qui est émis par le général von Trotha le 2 octobre 1904, où tous les héros puis Nama deviennent cibles. Et en fait, cet ordre va susciter un émoi international qui fait que dès décembre 1904, il est révoqué. Et c'est là que des camps de concentration vont être ouverts pour incarcérer les survivants, les condamner à des travaux forcés dans des conditions de vie effroyables, où la mortalité est très élevée. Alors, le lien avec la Shoah, il est très tentant, d'autant qu'on a certains prisonniers qui vont faire l'objet d'expérimentations médicales, ce qui rappelle les pratiques de Mengele à Auschwitz, par exemple. Mais en fait, les Allemands, ils n'inventent pas les camps de concentration. Il y en a déjà eu auparavant. Les Espagnols en ont mis en place dans les Philippines ou à Cuba à la fin du 19e siècle. Les Britanniques en Afrique du Sud lors de la guerre des Boers. Donc, il n'y a pas d'exceptionnalité allemande sur ce point qui prépare plus en Allemagne qu'ailleurs la Shoah. Et cette filiation, elle a été vraiment invalidée de bien d'autres manières par les spécialistes.
Aujourd'hui, c'est la première fois que la Namibie va commémorer officiellement ce génocide. Pourquoi a-t-il fallu attendre 120 ans pour que ce genre de cérémonie soit organisée?
En fait, il y a 80% de la population Herero, 50% de la population Nama qui sont exterminés entre 1904 et 1907. Donc, ça reste pas grand monde d'un point de vue démographique, d'autant que les survivants, ils peuvent pas regagner le territoire, ils sont dispersés, même déportés parfois jusqu'au Cameroun. Donc, en fait, les sociétés africaines du territoire qui va devenir à terme la Namibie, elles ressortent bouleversées. Et ça permet à une autre population locale, la population des Ovambo, de devenir la population majoritaire avec un équilibre politique, économique et social qui s'en ressent durablement. Et en fait, c'est surtout depuis 1990 que les descendants des Herero et des Nama essayent de réactiver la mémoire de ce génocide. Alors pourquoi 90? C'est parce que c'est à ce moment-là que la Namibie obtient son indépendance,
colonie en 1919.
Voilà, de l'Afrique du Sud, absolument. Et c'est le parti de l'indépendance, la SWAPO, qui est dominé par les Ovambo, qui du coup mène un petit peu cette entrée dans le temps postcolonial. Et du coup, ça entérine cette sous-représentation des Herero et des Nama, qui est une sous-représentation héritée du génocide d'un point de vue démographique.
Mmh. Il aura aussi fallu attendre côté allemand plus d'un siècle pour reconnaître le génocide, alors que l'Allemagne a su lancer un travail de mémoire sur d'autres sujets bien plus vite. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps en Allemagne?
Comme je le disais, l'Allemagne, elle perd ses colonies en 1919. Donc, elle essaye déjà de se reconstruire après la Première Guerre mondiale dans les années 1920 sur le terrain européen. Il y a une certaine nostalgie de l'empire colonial qui n'est pas propice à la remise en question de ce qui vient de se passer en Namibie. Il y a aussi ensuite, bien sûr, la période nazie qui n'est pas propice non plus à ça. Et après 1945, la dénazification suppose d'abord de faire un travail de mémoire sur la Shoah. Ça ne veut pas dire qu'il y a personne qui pense à ce qui s'est passé en Namibie. Dans les années 1960, en fait, en Allemagne de l'Est, il y a déjà des chercheurs est-allemands qui travaillent sur l'histoire du génocide. Et donc, il y a une volonté nette aussi en RDA de critiquer cet impérialisme qui est vu comme un fléau occidental. Mais en RFA, donc en Allemagne de l'Ouest, ces travaux, ils vont un peu passer sous le radar. Et la réunification en 90, elle va rien arranger à ce niveau-là, même au contraire, j'ai envie de dire. Donc, en fait, c'est surtout avec les interpellations par les représentants Herero et Nama à la fin des années 90 qui vont réactiver cette mémoire en Allemagne, avec des premières excuses qui sont prononcées en 2004 par une ministre allemande à l'occasion du centenaire, et puis ensuite de plus en plus de gestes diplomatiques à la faveur aussi d'un fort renouveau historiographique sur la question ces 20 dernières années, jusqu'à une reconnaissance officielle du génocide par Angela Merkel en 2021.
Oui, en mai 2021, reconnaissance du génocide. L'Allemagne annonce aussi qu'elle versera plus d'un milliard d'euros d'aide au développement sur 30 ans. En même temps qu'elle ferme la porte à des indemnisations pour les descendants des victimes, est-ce que ces réparations ont éteint le contentieux entre l'Allemagne et la Namibie ?
entre l'Allemagne et la Namibie, peut-être sur le plan diplomatique, mais les populations Herero et Nama, les descendants, ne se sentent pas du tout considérés, en fait. Ils considèrent qu'ils n'ont pas du tout été associés aux négociations. Comme vous l'avez dit, ce ne sont pas des réparations qui leur sont versées directement. C'est un soutien financier au gouvernement namibien qui, encore une fois, est surtout majoritairement composé de représentants des Ovambo. Donc, du coup, les Herero et les Nama se sentent pas du tout reconnus. Et je crois qu'en fait, à cause de cette opposition, de ces désaccords, en fait, l'accord sur l'indemnisation n'a même pas été ratifié ni en Namibie, ni en Allemagne.
Merci Delphine Froment. Cet entretien sera à retrouver sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Un projet titanesque est en cours de réalisation au nord de la ville de Dakhla, dans la partie du Sahara occidental administrée par le Maroc. Un port en eau profonde capable d'accueillir des porte-conteneurs et des supertankers. Ce port, entièrement financé par le royaume chérifien, vise à proposer un nouvel accès à la mer pour les pays enclavés du Sahel et à renforcer les échanges sud-sud, notamment avec l'Amérique du Sud. Sur le chantier du port de Dakhla, le reportage de l'envoyé spécial de RFI, François Imferketeji.
Sur les hauteurs de ce chantier pharaonique lancé il y a 3 ans, en pleine zone désertique, une femme observe aux jumelles le balai de camions. Elle s'appelle Nisrin Newsy.
Directrice de suivi et de supervision de la réalisation du nouveau port de Dakhla Atlantique.
La côte a été terrassée sur plusieurs centaines de mètres pour le stockage, façon Tetris, de milliers de quadripodes, ces petits plots de béton à 4 bras capables de dissiper l'énergie des vagues et fortifier les digues portuaires.
On est sur quand même 5000 hectares d'exploitation de carbone.
Dakhla Atlantique, c'est 1500 employés, plus d'€1 milliard d'investissement par l'État marocain pour une infrastructure multifonction.
On parle du conteneur, on parle du trafic tir, on parle justement des hydrocarbures verts, de l'hydrogène vert, de l'industrie de la pêche et de la réparation navale. Tout cela, c'est des segments d'activité qui ont beaucoup de potentiel et qu'on a identifié pour pouvoir les drainer à travers un grand port comme le port de Dakhla Atlantique.
Selon la vision étatique, ce port permettra le développement économique des provinces du Sud, vocable marocain dans un contexte de territoire disputé. Ses concepteurs le présentent comme une nouvelle option pour les États du Sahel, enclavés, qui n'ont pas d'accès direct à la mer.
Désenclaver les pays du Sahel, c'est également une opportunité pour augmenter le commerce extérieur et également pour créer des investissements, la création d'emplois et le développement socio-économique de façon générale pour les pays du Sahel.
Instrument d'ancrage territorial et outil de développement de nouvelles routes commerciales maritimes, notamment avec l'Amérique du Sud, les enjeux stratégiques géopolitiques sont nombreux, tout autant que les défis d'ingénierie et environnementaux dans une zone écologique sensible. Pour gagner en tirant d'eau et accueillir les plus gros porte-conteneurs, un pont d'1,2 km a été construit perpendiculaire à la côte et l'équivalent de 28 hectares de terrain ont été gagnés en mer. Nisrin Newsy, casque sur la tête, a troqué sa veste noire pour un gilet jaune de chantier.
On a pensé aussi que c'était important de ne pas totalement fermer le courant littoral. Et donc on a réfléchi tout d'abord à faire le pont pour avoir les plus hauts fonds, et également aussi pour une question aussi environnementale, de ne pas faire une digue pour fermer un peu quand même le contact entre le trait de côte et la première profondeur qui est la profondeur de moins 12.
Le projet a atteint un taux d'avancement de 45% et la livraison du port est attendue pour décembre 2028. 35 millions de tonnes de marchandises pourraient y transiter chaque année. François Imferketadji, de retour de Dakhla, RFI.
Et c'est à Dakhla que se referme cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Michael Goncalves et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Vous restez avec nous dans une minute, un tout petit peu plus, le rendez-vous d'Haïti et des Amériques, ou bien une demi-heure d'informations en full day, ou en portugais selon votre zone d'écoute. À tout de suite.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
vos questions en direct à la sexologue Noël Caillarcy.
Vendredi,
nous vous proposons de réentendre l'émission consacrée à l'hygiène intime au féminin.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème de demain.
Génération climat, entre contradiction et lassitude, reportage au cœur d'une jeunesse pas vraiment écolo. 6 ans après les grandes manifestations pour le climat, Que reste-t-il de cet élan?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI. Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Si l'année 1988 a marqué un tournant dans l'histoire de l'Algérie avec des émeutes et une forte répression, peu de livres racontent cet épisode. L'écrivain algérien Saïd Katibi a décidé de l'aborder via un roman noir, une métaphore de son pays qu'il raconte dans La fin du Sahara.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.